Bonjour à tous, on se retrouve dans notre émission radio quotidienne. Nous sommes en compagnie de deux invités qui reviennent d'un voyage à Cracovie. Donc nous allons parler d'un sujet sérieux, de Cracovie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc bonjour Emma, quelle organisation les nazis mettent-ils en place à Cracovie ?
À Cracovie, les nazis engagent beaucoup de travaux sur place car ils estiment que la ville peut être rendue typiquement allemande, moyennant quelques aménagements. Ils modernisent de nombreux services et ils installent des lignes téléphoniques.
À l'automne 1939, ouvre à Cracovie un magasin vendant des portraits d'Hitler afin de commencer à diffuser la propagande nazie en Pologne. En Pologne, l'usage de la langue polonaise fut interdit. Les écoles secondaires et supérieures furent fermées. Seules les écoles élémentaires et certaines écoles professionnelles continuèrent de fonctionner. De nombreuses institutions culturelles, artistiques et scientifiques furent également fermées et leurs collections, renfermant souvent des pièces uniques, détruites ou pillées.
Les institutions économiques et sportives furent elles aussi liquidées, tout comme la majorité des administrations territoriales polonaises.
D'accord, très intéressant. Bonjour Mélissa. Comment les habitants sont-ils traités par les Allemands ?
Les nazis considéraient les Polonais comme étant des races inférieures. La police fusillait des milliers de Polonais et réquisitionnait tous les hommes pour des travaux forcés. Les Allemands fusillèrent des milliers de professeurs, de prêtres et autres intellectuels. L'objectif consistait à les exterminer dès que possible afin de semer la panique au sein de la population et de décourager toute tentative de résistance. Les nazis firent construire des ghettos à partir de plusieurs usines et ateliers où des juifs étaient astreints au travail forcé. Les Juifs sont expulsés du cœur de Cracovie en 1941. La prison de Montelupich représente un lieu glaçant où de nombreux résistants ont été torturés jusqu'à la mort. C'est là que les prisonniers politiques étaient envoyés entassés dans des cellules infestées par les rats et les poux, mal nourris et n'ayant que de l'eau froide pour maintenir un semblant d'hygiène. Ils finissaient souvent par être fusillés ou déportés dans les camps.
Très bien, donc maintenant nous passons à Emma. Je voulais vous demander en quoi l'usine de Schindler a-t-elle joué un rôle majeur pour les Juifs ?
Au départ, Oskar Schindler, c'était juste un opportuniste qui cherchait de la main-d'œuvre peu coûteuse. Il s'est ensuite lancé dans une opération de sauvetage où il a tout fait pour protéger ses travailleurs de la mort et de la déportation. Il a sauvé 1200 d'entre eux. À la fin de la guerre, Schindler a délocalisé ses ouvriers vers une autre usine plus protégée, puis il a dû fuir à la Libération car il risquait d'être traqué pour son appartenance au parti nazi et au renseignement. La fabrique d'émail d'Oskar Schindler, qui parvint à sauver une partie de ses travailleurs, se situait un peu plus à l'est, en dehors des limites du ghetto.
Bien. Et vous, Mélissa, comment avez-vous trouvé ce voyage dans la globalité ?
Le voyage était très intéressant, malgré quelques problèmes avec les guides durant la visite d'Auschwitz. C'était très émouvant. On a pu découvrir la ville de Cracovie et c'est une très belle ville.
Très bien. Et est-ce que les visites ont répondu à vos attentes ?
On s'attendait tous à ce que les visites soient émouvantes, mais pas à ce point. Certains ont pleuré. C'est vraiment très intéressant et ça a permis de compléter nos cours.
Eh bien, merci à vous, Mélissa et Emma. Et nous vous retrouvons dans une prochaine émission dès demain, car c'est une émission quotidienne. Et bonne journée à vous.